Donc on est en train de parler dans la Mishnah. On est en train de parler dans la Mishnah de plusieurs cas. Si une personne doit faire passer sa trouvaille ou la trouvaille de son père ou la trouvaille de son maître, laquelle passe avant. Donc on a vu toutes sortes de halakhot autour de ça. D'accord. La trouvaille de son père, la trouvaille de son maître, laquelle passe avant. Très bien. Ah, maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. C'est pas une histoire, c'est une question. Une question qu'on s'est posée à propos de la perte d'un rave, d'accord, qui a besoin de son élève. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait expliqué ? On avait expliqué que si j'ai le choix entre mon maître, ça veut dire mon maître a perdu quelque chose, et mon père a perdu quelque chose, lequel il passe en premier, on a dit ?
Maître.
Le maître. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'avait dit la Mishnah ? Parce que le maître m'a amené à la vie du monde. Tiens, on parlait de ça, voilà. Du monde futur, d'accord ? Alors que mon père, a priori, m'a amené à la vie de ce monde-ci. Très bien. Maintenant, écoutez bien la question que Gemara va poser. Kaba Emine Rafrizda Meravuna. Rafrizda a posé une question à Ravuna. Alors, il faut savoir que Rafrizda était l'élève de Ravuna. Donc, il faut bien comprendre le hic de la question. Donc, Rafrizda, qui était l'élève de Ravuna, lui a posé la question suivante. Il lui a dit, Talmid, si c'est un élève, donc un élève qui apprend chez son maître. C'est-à-dire un élève, quoi. Un élève, voilà, comme par exemple, comme moi, Rafrizda. D'accord, je suis ton élève à Ravuna. Vetsarichlo rabo. D'accord. Mais le maître a besoin de l'élève. Pourquoi il a besoin de l'élève ? Il a besoin de l'élève notamment, comme ce que Rashi explique, il a besoin de l'élève parce que des fois l'élève va rapporter au maître des informations, donc des Mishnayot ou des Braïtot, que le maître ne connaît pas. Donc c'est un élève un peu spécial. C'est-à-dire, c'est un élève qui ne fait pas qu'apprendre. C'est un élève aussi qui va rapporter des informations au maître. Le maître a besoin de lui. On est d'accord ? Alors, Maï, quel est le din dans ce cas-là ? Est-ce qu'on va dire que ce rave-là, il passe également avant son père, puisque finalement c'est son maître ? Finalement, il apprend des choses. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire ? Ou bien on va dire que puisque le rave a aussi besoin de l'élève, donc l'élève a un statut un peu spécial. Il a un statut de... Il peut avoir un statut de soit de rabbin aussi par rapport à ça, soit de rave, parce qu'il enseigne quelque chose à son maître, ou soit le talmi travers. Talmi travers, c'est un statut particulier qu'on verra. C'est talmi travers, ça veut dire un élève, mais un élève qui est travers, qui est un ami. Ça veut dire que c'est pas exactement la même chose. Donc est-ce que dans ce cas-là, cet élève-là fait passer son kivou d'avem avant ? Est-ce qu'il irait chercher d'abord la trouvaille de son père ? Ou est-ce qu'il irait d'abord chercher la trouvaille de son maître ? Si on avait le choix a priori entre sa trouvaille et la trouvaille de son maître, c'est sûr que ma trouvaille passe toujours avant. On a expliqué. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, la Torah nous donne l'obligation de tout faire pour ne pas s'appauvrir. Vous vous rappelez ? Très bien. Donc là, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Mais la question se pose. Donc Rafrizda, il pose la question à Ravuna. Rafrizda, rappelez-vous, c'est l'élève ou le maître ?
L'élève.
C'est le maître. Rafrizda, c'est
l'élève.
Oui, il pose la question à Ravuna. Et il lui dit, un élève qui a besoin de son maître, quel est le din ? Est-ce que, dans ce cas-là, il passe avant le père ? Est-ce que, dans ce cas-là, le père passe avant ? Puisque, bon, c'est un maître avec un statut particulier. Ou bien, quand même, le maître passe quand même avant. Vous prenez la question ? Alors, réaction de Ravuna, avec un peu d'humour. Amarlé, Ravuna lui a répondu, il lui a dit, Rizda, l'autre Trichanalar. Il a dit, Rizda, j'ai pas besoin de toi. At Trichatli, c'est toi qui as besoin de moi. En l'autre terme, reste tranquille, je passerai toujours avant ton père. Rizda, il n'a pas appelé Rafrizda, il a appelé Rizda. Il dit Rizda. Là, Trichnalar, j'ai pas besoin de toi. Quand j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ce que tu vas m'apporter.
On dit en anglais, no comment.
Ad Trichatli, c'est toi qui as besoin de moi, d'accord ? Ad Arbaïn Chenin, jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire jusqu'à 40 ans. Alors, on sait très bien ce que la Gemara a dit plusieurs fois. Elle dit que tant que l'élève n'a pas étudié 40 ans avec son maître, il ne pourra pas comprendre réellement ce que son maître veut dire. Même s'il croit avoir compris, en vérité, il n'a pas compris à 100% ce que son maître veut dire. C'est seulement au bout de 40 ans d'enseignement que l'élève il peut se permettre de dire « je commence à comprendre ce que le maître veut dire ». Hein, c'est le fameux, comme on a expliqué au cours italien, c'est le dit et le non-dit. C'est-à-dire que l'élève, il doit savoir que même s'il croit qu'il a compris, mais en vérité, c'est seulement 40 ans plus tard qu'il va commencer à comprendre ce que son maître voulait dire. Donc il lui a dit en d'autres termes, il lui a dit, tant que t'es pas étudié 40 ans avec moi, t'as toujours besoin de moi.
Bon, alors rendez-vous dans bon. 40 ans.
Alors justement, qu'est-ce qu'on raconte ? On dit, Ikbédé à Dédé. Et on raconte qu'ils étaient donc, suite à cette histoire, Ikpeda Dadé, ça veut dire qu'ils étaient makpi l'un sur l'autre, ça veut dire qu'ils étaient fâchés. Ah oui, ils étaient fâchés l'un sur l'autre, Rafrizda et Ravuna. Vélo Aïlé, les Gabé Dadé, et ils ne rentraient pas l'un chez l'autre, d'accord ? Donc ils étaient fâchés, quoi.
Mais là, je suis pas d'accord du tout dans la même Mishnah que toi, hein.
Ah, que vous êtes.
33-1, c'est ça, non ? 33-4. Ah, à 4, c'est pour ça. C'est pour les souffrances de l'animal.
C'est là.
D'accord.
Donc, ils ne sont pas rentrés l'un chez l'autre pendant donc, alors, vélo, comment on appelle ça ? Donc, ils ne rentraient pas l'un chez l'autre. Ça veut dire qu'ils étaient fâchés l'un contre l'autre. Bon.
C'est étonnant, non ?
C'est étonnant. Comment se fait qu'ils sont fâchés ? Et même, c'est étonnant la réaction de son maître. C'est quoi la réaction de son maître ? Pourquoi il a besoin de l'attaquer comme ça ? Bon. Alors, a priori, on comprend d'ici des Mefarshim que Ravuna a compris que Rafrizda est en train de le piquer. Il est en train de lui dire « Oui, j'ai besoin de vous, donc... » Bon, mais c'est étonnant. On va voir la suite. D'accord ? C'est quoi cette réaction ? Et en plus, suite à cette réaction, Rafrizda, il fait la tête. Du style « Tu crois que j'ai besoin de toi ? Moi, je peux me débrouiller sans toi. »
Non, non, le contraire.
Après, il a jeûné.
Non. Rafrizda... Là, pour l'instant, où on en est, Rafrizda, il s'est fâché avec son maître.
Oui, il s'est fâché avec son maître.
Donc, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, et l'un ne rentrait plus chez l'autre. Les Gabé et Dadé.
Oui, c'est étonnant.
En tout cas, ça veut dire qu'aucun n'a fait d'effort pour l'instant pour... Ah oui, j'étais fâché. Bon. Yativ Rafrizda, Arbaim Ta'anita. Alors, Rafrizda a jeûné 40 jeûnes. 40, hein, le chiffre 40, on a compris, c'est pourquoi.
Ouais.
D'accord. Mais pourquoi il a jeûné 40 jeûnes, d'après vous ? Ne regardez pas la suite. Pourquoi il a jeûné ?
Parce que pourquoi il a
jeûné pour faire ses choix ? Pour essayer de comprendre justement l'enseignement, il a voulu comprendre.
Pour essayer de quoi ? Maintenant, il parlait plus avec son maître.
Ce qu'il a voulu lui dire.
Ah, pourquoi il a jeûné 40 jeunes ?
Parce que quand on fait référence aux 40 ans.
Très bien, mais pourquoi il a jeûné 40 jeunes ? Pour quelle raison ? Parce qu'il voulait demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir retourner chez son maître ? Vous voulez demander pourquoi il a jeûné 40 jeunes ?
Entre autres.
Alors, ce que dit la
Gemara ? Peut-être que pour lui, 40 jeunes, ça correspond à 40 ans, donc ça, il n'a plus besoin de son maître.
D'accord ? Alors. Yativ Rafrizda, écoutez bien ce qu'est l'histoire. Yativ Rafrizda, Arbaïn Ta'anita, Rafrizda donc s'est assis, donc il a fait 40 jeûnes, c'est une expression de la Gemara quand on dit s'asseoir sur un jeûne. Donc il a fait 40 jeûnes. Pourquoi ? Mishum dechalash daté de Ravuna. Parce qu'il a blessé Ravuna. Pas parce qu'il avait besoin de Ravuna. C'est-à-dire que Rafrizda à cette époque-là était à un niveau qu'il pensait déjà que. La Gemara d'ailleurs, la Gemara, vous voyez bien que la Gemara les appelle Rafrizda et Ravuna. Ça veut dire que, ça veut dire qu'à cette époque-là, la Gemara considère que Rafrizda pouvait se débrouiller tout seul.
Mais c'était pas seconde.
Rafrizda a jeûné 40 jeunes, pourquoi il a jeûné 40 jeunes ? Il a jeûné 40 jeunes parce qu'il a blessé Ravuna, Khalash Daté, parce qu'il a affaibli son esprit parce qu'il a blessé Ravuna. Les commentaires expliquent bien que on sait explicitement que Rafrizda n'avait aucune intention de blesser Ravuna. Et pourtant, il a jeûné. Pourquoi il a jeûné ? Parce que de ses propos, son maître a pu comprendre quelque chose.
D'accord.
Donc, il s'est dit, certainement, si ça m'est arrivé, c'est que j'ai un tikkun à faire.
Certainement, parce que même quand il dit ça, on sent que, même s'il n'a pas fait méchamment pour blesser son maître, on sent qu'il y avait un petit peu d'orgueil dedans.
Ah non, c'est ça ce que la Gemara a dit. D'accord ? La Gemara a dit, maintenant, Veyati, écoutez bien, c'est pas fini. Veyativ. Ravuna Arbaïn Ta'anita, et Ravuna a fait également de son côté 40 jeunes. Pourquoi ? Mishum de Khajde le Rafrizda, puisqu'il a soupçonné Rafrizda.
Donc il y a eu une malentendue.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est clairement un malentendu. Alors, l'histoire ne raconte pas, est-ce que par la suite ils se sont rencontrés ou pas ? L'histoire ne raconte pas.
On peut dire Babadaï.
Je ne sais pas. Ah non. Parce qu'apparemment, chacun de son côté,
c'est bizarre.
D'accord, chacun de son côté était gêné d'avoir blessé l'autre. Rafrizda était gêné d'avoir dit des propos qui ont mal été interprétés. Et Ravuna était gêné. De quoi il était gêné ? Enfin, de quoi il était dérangé ? Il était dérangé d'avoir soupçonné son élève Rafrizda. C'est là qu'il a compris qu'il a fait une erreur. La Gemara ne raconte pas le suite de l'histoire. Et pas seulement ça. Pour l'instant, on n'a pas la réponse à notre question.
Exactement.
C'est quoi la question ?
Est-ce que il prend d'abord son maître ou son père ?
Ou son père. On n'a pas la réponse. Mais du coup, il est parti avec une question.
D'après la réponse, d'après la réponse de Ravuna. On déduit, comme il a insisté, Rizda, il lui a dit, tout ça et tout. C'est une réponse évidente. Il a dit, tu me poses une question dont la réponse, tu connais.
Non, ça veut dire qu'il a pris cette question sur le plan personnel.
D'accord.
Il a cru, alors qu'apparemment, ce n'est pas du tout la kavana de Rafrizda. Rafrizda, c'est une simple question. Dans la Gemara, il n'y a pas de tabou. Il s'est dit, attends, c'est mon maître, je vous pose la question. Maintenant, son maître a compris ça, a pris ça sur le plan personnel.
Moi, ce qui m'étonne,
très bizarre après, comme
il n'est pas venu se dire Mechila ou... Oui, après les jeunes, après le temps des jeunes, venir le voir.
Dire... Mechila de quoi
du malentendu que vous avez...
Non, mais Mechila de quoi ils ont pas... Il n'a rien dit, là. Personne n'a dit aucune mauvaise phrase ici. Analysez l'histoire encore une fois.
Il a vu qu'il s'est
fâché. À l'arrêtement parlant, il y a zéro problème.
D'accord. Mais il a vu qu'il
s'est
fâché son maître.
Très bien.
D'accord.
Alachiquement parlant, il n'y a aucun problème ici.
D'accord.
Il n'y a pas eu de lachanara,
d'accord.
Il n'y a pas eu de manque de respect, il n'y a rien du tout alachiquement parlant.
Si, mais le soupçonné a tort, c'est marqué.
Très bien. Parce qu'il a compris plus tard qu'il a fait une erreur.
Donc, il peut demander pardon.
Mais alachiquement, c'est pas un problème ça.
Non, mais il peut demander pardon quand même.
Et oui.
Il n'a pas demandé pardon.
Parce qu'il a jeûné, il a réalisé.
Il a jeûné, alors c'est ça la force. C'est qu'apparemment, ce qu'on nous raconte ici, on nous raconte ici qu'il a jeûné 40 jeunes. Pourquoi il a jeûné 40 jeunes? Il n'est pas parti le voir, il est parti jeûner, ça veut dire qu'il a réglé ça entre lui et Dieu. C'est ça ce qui est étonnant. Ce serait attendu, est-ce qu'il aille régler ça envers son...
Oui.
Alors a priori, si on comprend des Mefarshim, on comprend des Mefarshim que par la suite, chacun a compris qu'il avait fait une erreur, et que bon, ils ont compris que Min HaShamayim c'était voulu, n'est-ce pas ? Il a compris que Min HaShamayim c'était voulu, et qu'apparemment leur chemin devait se séparer. Après, il n'y a plus de traces de cette histoire, on ne sait plus ce qui s'est passé après. Mais, il a compris aussi que certainement, c'est ça la force, Rav Frisda a compris que certainement Rav Huna, il connaissait son maître, il dit certainement mon maître a compris ce qui s'est passé. Et Rav Huna s'est dit aussi, certainement mon élève a compris ce qui s'est passé. Donc ils ne s'en voulaient pas les uns les autres.
D'accord.
Pourquoi ils ont jeûné 40 jeunes? Il dit maintenant le problème, on doit le régler pas envers l'un envers l'autre, mais on doit régler notre problème envers Dieu. Pourquoi envers Dieu? Parce que le fait que je l'ai soupçonné, et le fait que, de l'autre côté, l'élève a dit quelque chose qui a pu mal interpréter, ben envers Dieu, c'est reprochable. À leur niveau. C'est très très spécial comme histoire.
À leur niveau, comme tu dis.
Vous avez remarqué comment il a géré le problème, ils ont géré chacun le problème entre eux-mêmes et Dieu. C'est étonnant, non? Imaginez-vous, je blesse quelqu'un, je vais jeûner 40 jeunes. Mais je n'ai pas 40 jeunes, pourquoi tu te perds dans des jeunes? Il va demander pardon.
C'est ce qu'il nous demande, ça garde beaucoup.
Et apparemment, quand on lit l'histoire ici, on comprend, d'accord? On comprend, c'est pas même pareil, si c'est ici. Bon, moi, je vous dirai pendant la Khazara.
Bon, visiblement, Ravisa, il a compris que Ravisa, il jeûnait 40 jours parce qu'il...
Voilà.
L'autre, il savait aussi que l'autre, il jeûnait 40 jours, etc. C'est 40 jeunes.
Non, il savait pas qu'il jeûnait l'autre aussi.
Si seulement que les uns les autres, ils devaient savoir.
Il savait ou
certainement
pas.
Que... Non, alors, justement, c'est ce que me faire chier. Certainement que soit il le savait, soit il devinait.
D'accord.
Il se connaissait. Bon, c'est un élève et un maître, il se connaissait. Alors, il a deviné que, certainement... Mais pourtant, l'histoire ne raconte pas. Est-ce que par la suite, ils se sont rencontrés ou pas?
Alors, Mechila, peut-être, donc, Rav Huna, il voulait dire par là, maintenant, tu peux partir. T'as fait tes 40...
C'est un siman du ciel, mais c'est étonnant comme histoire.
C'est étonnant.
Honnêtement, c'est étonnant comme histoire.
Parce que qui soupçonne, Rav Huna, c'est un maître, c'est un
dernier.
On se serait attendu au moins, on n'a pas d'explication. Juste l'explication, je vous ai dit, mais bon. On se serait attendu au moins à ce que Rav Frisda pose la question. Que Rav Huna pose la question à Frisda, il dit « Frisda, tu penses à moi ?»
Oui.
Là, direct, il rentre dedans.
Ouais.
Il lui dit « Frisda, j'ai pas besoin de toi.
» Tu peux voler de tes propres ailes aussi, ça veut dire.
D'accord ? Spécialement. Il a pas dit « t'as pas besoin de moi », il a dit « j'ai pas besoin de toi. »
Oui, c'est vrai. C'est... il y a une nuance, oui.
D'accord ? Ah, c'est pas une nuance, c'est une nuance de taille.
Ouais.
Bon, c'est étonnant comme histoire.
Tout à fait.
Alors, maintenant, rappelez-vous, on n'a toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Un maître qui a besoin de son élève. Dans ce cas-là, l'élève fera passer son maître avant ou son père avant? Oui. Donc, la Gemara veut dire la halakha maintenant. Elle nous dit, Itmar, en enseigné, Rav Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. D'accord? Rav Yitzhak bar Yosef Adyolon Rabbi Yochanan, halakha ki Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors, quel Rabbi Yehuda? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, ce qu'on avait étudié. On avait étudié que, dans la Gemara, on avait dit qu'est-ce qu'on considère comme un maître qui passe avant son père, c'est un maître qui nous enseignait la majorité de la sagesse. Vous vous rappelez? Très bien. Alors là-bas, on avait amené une machloquette dans la Gemara pour essayer de définir qu'est-ce qu'on considère son maître. On avait 3 avis. Premier avis, d'accord, c'était l'avis de Rabbi Meir qui a dit que qu'est-ce qu'on considère son maître, c'est son maître qui lui a appris à réfléchir. Vous vous rappelez? Comme par exemple, il a pris la Gemara, en général, il lui a appris à réfléchir. C'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Huda, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Huda dit, qu'est-ce qu'on considère son maître? C'est celui qui lui a pris la majeure partie de sa sagesse. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, il a appris 0 gemara dans sa vie, il a appris que du Chumash, et que le maître qu'il a appris du Chumash, il s'avère que c'est... Il a appris le Aleph Bet, voilà, il a appris que l'Aleph Bet. Et donc, bah, c'est la maîtresse du Gan qui lui a pris le Aleph Bet. Et bien, cette maîtresse du Gan, elle passe avant tout le monde. Elle passe avant son père. C'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, on se base pas sur... donc, c'est subjectif. On se base pas sur celui qui m'a appris à réfléchir. On se base sur celui qui m'a appris la majorité de ma sagesse. D'accord. Et Rabbi aussi, rappelez-vous...
Celui qui s'est appris tout seul la majorité de sa sagesse.
C'est pas mal, bonne question.
Il est devenu rave tout seul, dans ce cas-là.
Il y a des cas, ben,
non, mais...
il y a eu des cas.
Autodidacte.
Oui.
Ouais, ça, c'est une...
Il se posera la question.
C'est belle chez là, en tout cas.
Il n'y a pas le cas, en tout cas.
Belle chez là, ouais.
Il n'y a pas ce cas, en tout cas, il n'existe pas.
Dans ce cas-là, il doit respecter son père en tout. Hein.
Passe avant. Donc on dit comme ça, il dit... Afilu lohir et enav. Et Rabbi aussi nous avait dit que même si il a éclairé les yeux que sur une Mishnah, d'accord, même si, même si une personne m'a éclairé les yeux sur une Mishnah, je dois le considérer comme mon Rav. Très bien.
Donc en fait, on est tous les rabbinim les uns des autres. Enfin,
ah voilà, sur le Rabbi aussi. Alors, la question se pose maintenant.
Bonjour monsieur.
D'accord.
Shavuot Tov.
Bonjour.
Shabbat Shalom.
Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Shavuot Tov. Il n'y a pas de mal.
Alors, la question se pose maintenant. La halakha est comme qui? Qu'est-ce qu'on considère son Rav? D'accord. Et qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit Itmar, donc c'est pour ça qu'on dit Rav Yitzhak Var Yosef a dit non de Rabbi Yochanan. La halakha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que est considéré son Rav celui qui m'a appris la majeure partie de sa sagesse. D'accord. Ravacha bar Ravuna Amar Rav Shechet. Ravacha, le fils de Ravuna, a dit non de Rav Shechet. Halakha que Rabbi Yossi. La halakha est comme Rabbi Yossi. Que quoi? Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi a dit, même si on m'a appris, même si le Rav m'a appris une seulement, enfin même si une personne a appris seulement une seule chose, il m'a éclairé les yeux sur une Mishnah. Vous vous rappelez l'exemple qu'on avait amené avec Shmuel? Shmuel, on avait dit que, tu te rappelles Yaakov, ce qu'on avait dit avec Shmuel, que Shmuel, une fois, il y avait une Mishnah qu'il ne comprenait pas, et on avait raconté deux histoires, l'histoire avec Rava et l'histoire avec Shmuel. Première histoire avec Rava. Comment Rava, une fois, il y avait un ustensile qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il est parti voir un vendeur, un bazar. Il lui a dit, voilà, c'est ça l'ustensile. Donc, il lui a éclairé les yeux sur une Mishnah. Et on dit que depuis, Rava, il le respectait. Pour lui, c'est son maître. D'accord. Pareil, on a raconté une histoire similaire avec Shmuel.
Vous comprenez ce que ça veut dire, hein.
Alors, deuxième avis.
Quand même.
Parce que comme il m'a aidé à comprendre une Mishnah, donc il a sa partie dans la Mishnah.
Ah, parce qu'il y a déjà un rapport avec la Mishnah.
D'accord. Donc... Ravacha Baravuna dit Londra Chichette, la Lachai comme Rabbi Yossi, que qu'est-ce que c'est considéré son Rav? Son Rav est considéré même celui qui lui a éclairé les yeux uniquement sur une Mishnah.
Celui qui lui a appris quelque chose. Sur une Mishnah.
D'accord. Non, même pas qu'il m'a appris quelque chose.
Qu'il lui a éclairé.
C'est-à-dire qu'il m'a éclairé les yeux. C'est-à-dire qu'il m'a éclairé les yeux, ça veut dire, attention. C'est-à-dire que même si le vendeur du bazar, il ne sait même pas ce que c'est la Mishnah, il ne sait même pas dire le Aleph Bet. Amaret, Midoraita. Il ne comprend rien du tout. Mais que bon, tu as un terme dans la Mishnah que tu ne comprends pas.
Donc je me suis passé d'accord. Avant ton
du style. Ah oui. Du style, imaginez-vous, il est bloqué sur un problème. Il est une Mishnah ici, il est bloqué sur un problème technique. Il va poser la question à un gars, il va dire, mais je vais vous expliquer, monsieur. Il va aller chez un menuisier, il va dire, voilà, monsieur, je vais vous expliquer comment on fait. Et bien, il m'a éclairé sur une Mishnah. Mais attention, ça double tranchant, ça. Parce que de manière générale, c'est pratiquement impossible que son père ne rentre pas dans cette catégorie.
Oui,
exactement. Ah ben oui. Ah oui.
Attention.
Même plus, même.
Si c'est possible dans le cas d'autodidacte.
C'est possible dans le cas où il a coupé les ponts avec son père depuis l'âge de 0 ans.
Ouais. Sinon, le trinor, c'est le père qui...
Sinon, c'est obligé que son père lui éclaire les yeux au moins sur une chose.
Ou à sa mère.
D'accord. C'est obligé.
Bien sûr.
On n'a pas parlé de la mère, vous avez remarqué.
Ouais.
Théorie, c'est la même chose, le père et la mère. Ouais. Bon. Alors, la Gemara pose la question, elle dit... Mi, Amar, Rabbi, Yochanan, Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit comme ça? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Allez, qu'est-ce qu'on vient de dire, paragraphe précédent? Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi. Début du paragraphe précédent. Début du paragraphe précédent, qu'est-ce qu'on vient de dire? Est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan?
Que la Mishnah explique toujours l'opinion exprimée dans une Mishnah anonyme.
D'accord. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan?
C'est pas pour ça que vous avez...
Ah oui, c'est pour ça que je vous réveille.
Merci.
Elle m'a dit, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Relisez le paragraphe d'avant.
Est-ce que Rabbi Yochanan a dit vraiment ce que la race suit Rabbi Yochanan?
Attends. Est-ce que Rabbi Yochanan dit vraiment ça? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Relisez le paragraphe précédent.
Il dit qu'on suit la vie de Rabbi Yochanan.
Voilà.
Donc celui qui est en
train de
appris la majorité,
de sa sagesse. D'accord. Donc apparemment, Rabbi Yochanan suit la vie de Rabbi Yehuda. On dit, mais est-ce que Rabbi Yochanan a réellement dit ça? Rabbi Yochanan a dit dans plusieurs endroits, que Alacha Mista Mishnah. Alacha Kista Mishnah, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que si on a une Mishnah, d'accord, imaginez-vous qu'on a une Mishnah. Une Mishnah no name, pas de nom.
Anonyme.
D'accord. Anonyme. Il n'y a pas de nom sur cette Mishnah. La Mishnah dit quelque chose. Maintenant, sur cette Mishnah, il n'y a pas de marloquette. Dans une autre Maseret, il y a la même Mishnah, mais là-bas, il y a une marloquette. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dit comme ça, Rabbi Yochanan dit comme ça, par exemple. D'accord. Dans ce cas-là, quelle est la halakha de suivre? Est-ce que je vais essayer de me baser là-bas sur un des deux avis? Je dis, bon, je suis un des deux. Ou bien je suis la Mishnah anonyme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, on suit toujours la Mishnah anonyme. Pourquoi? Puisqu'on considère que si la Mishnah est anonyme, certainement qu'elle était déjà au courant de la marloquette qu'il y avait. Et si elle a été anonyme, ça veut dire que certainement l'alakha, à l'époque de la Mishnah, a déjà été fixée comme ça.
D'accord.
Puisqu'on ne sait pas quelle Mishnah a été écrite avant laquelle. Ah oui. Donc Rabbi Yochanan a dit ça. Et alors? Il a dit que Alakha Kista Mishnah, que l'alakha est toujours comme une Mishnah, ça veut dire comme une Mishnah anonyme. Et alors? On va trouver une Mishnah anonyme qui parle de notre cas, qui va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est un rave. Ça veut dire que c'est vrai que sur une autre Mishnah, on a vu qu'il y avait une marloquette pour déterminer qu'est-ce que c'est un rave. On avait trois avis. L'avis de Rabbi Meir qui dit que le rave, c'est celui qui m'a appris à réfléchir. L'avis de Rabbi Yehuda qui disait que le rave, c'est celui qui m'a appris la majeure partie de
la sagesse.
Et l'avis de Rabbi Yossé qui dit que...
Une Mishnah, seulement.
Même s'il m'a éclairé les yeux uniquement sur
une Mishnah.
Très bien. Ça, apparemment, c'est une Mishnah sur laquelle il y avait une autre marloquette.
Enfin, c'est pas forcément en contradiction l'un avec les autres. Hein.
Non, là, il n'y a pas de contradiction. Mais ça, on peut avoir des cas dans lesquels une personne n'a pas de rave.
Oui.
D'accord.
Mais alors, ça ne comprend pas la question.
Très bien. Alors, on écoute la question de la Gemara. La Gemara dit, mais voilà, Rabbi Yochanan nous a appris le principe. Ce même Rabbi Yochanan nous a appris le principe que Alakha qui est un Mishnah. Que si on a une Mishnah sur laquelle il y a une marloquette, et on a une autre Mishnah qui nous dit la même chose, mais sans marloquette, en mode anonyme,
on prend celle-ci.
On suivra toujours celle-là. Et alors? Maintenant, on va nous amener une deuxième Mishnah, dans laquelle il n'y a pas de marloquette. Sur laquelle il n'y a pas de marloquette. Utnan, voilà, ça c'est dans notre Mishnah. Rabo Shelindo Chorma. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi son maître? On a dit Rabo. C'est quoi son maître? C'est quoi la définition de son maître? C'est Shelimdo Chorma. Parce que son père, son maître lui a appris Chorma, la sagesse. Rappelez-vous, où c'était ça? On va reprendre la Mishnah. Prenez le côté Mishnah, je vais vous le montrer rapidement. Vous prenez première grande ligne.
Shel Rabo.
Voilà, Shel Rabo. Shel Rabo Kodemet, on a dit si j'ai le choix entre la perte de mon père et la perte de mon maître, Shel Rabo Kodemet, la perte de mon maître passe avant. Pourquoi? Chez Aviv Evio Leolamazé, puisque son père l'a amené à la vie de ce monde-ci, Verabo chez Limdo Chorma, et son maître qui lui a enseigné la sagesse, qui l'a enseigné à réfléchir, Mevio Lechaya Olamaba, il l'amène à la vie du monde futur. Personne n'a marqué cette Mishnah.
C'est la vie de Rabbi Yeshua, ça.
C'est la vie de Rabbi Meir.
Oui, Rabbi Meir, ouais.
D'accord.
D'accord.
C'est évident, là. Il dit Rabo chez Limdo Chorma. Son maître qui lui a appris la Chorma. Alors nous, on comprend, ça veut dire quoi, qui lui a appris la Chorma? Bah, qui lui a appris la Chorma, ça veut dire qu'il a appris à réfléchir.
À quoi ça sert pour le monde futur d'apprendre à réfléchir?
Très bien. Donc il dit apparemment, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Apparemment, on pose la question à Rabbi Yochanan, on dit, mais attends, enfin, Rabbi Yochanan n'est plus parmi nous, mais on dit, comment Rabbi Yochanan peut dire ça? Que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on considère un rave? Celui qui... Non. Qu'est-ce qu'on considère un rave? Celui qui t'a appris la majeure partie de sa sagesse. Je dis, mais attends, non, c'est pas ça.
On a une
Mishnah anonyme qui nous dit que Rabo Shelimdo Chorma, le maître qui l'a appris, la Chorma. A priori, c'est quoi Chorma? Ça veut dire qu'il m'a appris à réfléchir. On est d'accord? Comme ça, là que m'a posé la question.
Ah, c'est une Mishnah.
C'est notre Mishnah. Matnitin.
Elle est anonyme.
La Mishnah, comment elle apprend? Et elle est anonyme, il n'y a pas de nom.
Ouais. On dit souvent quand c'est anonyme, souvent c'est Rabbi Meir, non?
Très bien. Peu importe c'est qui.
C'est un avis en même temps.
D'accord? Peu importe c'est qui. L'avis de Rabbi Yochanan, c'est que quand c'est Stam Mishnah, quand c'est Mishnah anonyme, on parle de la base que certainement elle a été écrite après les autres.
Ils le savent aussi, non?
D'accord.
Ils le savent pas.
Très bien. Mais les autres sont peut-être pas d'accord avec ce principe. Les autres peuvent te dire Stam Mishnah, bah, ça suit un avis particulier, donc on peut être en marloquette avec. Mais le même Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que quand il y a une Stam Mishnah, il faut toujours suivre Stam Mishnah. Alors, a priori, Rabbi Yochanan ne suit pas une Stam Mishnah. Il y a un problème?
Il est en contradiction avec lui-même.
Il est en contradiction avec lui-même, si tu veux, bon.
C'est possible.
On comprend pas.
Ouais, évidemment. On comprend pas ce qu'il veut dire.
La Gemara n'a pas dit qu'il est en contradiction avec lui-même, il dit on comprend pas ce qu'il veut dire.
Ouais.
D'accord?
Non, c'est moi qui me suis.
C'est déjà c'est un niveau de dire qu'il est en contradiction avec lui-même.
Disons qu'on n'a pas compris. Comment c'est possible cette chose-là?
regardons encore une fois les mots de la Gemara. Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi. Comprenez ici. On est là, on est encore là. D'accord. Juste les mots de la question. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? Je ne comprends pas comment Rabbi Yochanan a pu dire ça. Comment Rabbi Yochanan a pu dire ça? Je finis par rien, après je passe à votre question. Ma Rabbi Yochanan, voilà, Rabbi Yochanan dit dans plusieurs endroits que Halakha qui c'était Mishnah, que l'Halakha est toujours comme Stam Mishnah, comme une Mishnah anonyme. Et alors, et pourtant dans notre Mishnah, on a enseigné, je viens de vous le montrer, Rabo Shelim de Chorma. La définition du Rav dans notre Mishnah, c'est Rabo, son maître qui lui a enseigné la Chorma. Donc a priori, c'est quoi son maître qui lui a enseigné la Chorma? C'est le maître qui lui a appris à réfléchir. On est d'accord?
Oui.
Donc c'est comme la vie de Rabbi Meir. Oui. Donc comment Rabbi Yochanan il peut venir et dire, moi je pense que l'Halakha est comme Rabbi Yehuda, qui dit que c'est quoi un Rav, c'est celui qui m'a appris la majeure partie de ma sagesse. Rabbi Meir ne dit pas ça. Rabbi Meir dit que le Rav, c'est celui qui m'a appris à réfléchir. Donc a priori, il y a un problème, on a mal compris ce que Rabbi Yochanan a dit. On est d'accord?
Oui.
Répond la Gemara, après je passe à votre question. La Gemara répond et dit, Maï Chochma, c'est quoi la Chochma? Rav Chochmatou. Quand on dit dans la Mishnah, son maître qui lui a appris la Chorma, c'est quoi la Chorma?
C'est connaissant.
D'accord, attention, Chorma, ça peut se traduire de plusieurs manières. Traduisez-moi Chorma.
Chorma, l'intelligence.
L'intelligence.
Il y a deux choses. Soit c'est le maximum
Ça peut être l'intelligence, ça peut être la réflexion, ça peut être la sagesse.
Tout à fait.
Ça peut être la quantité, beaucoup de choses. Les enseignements.
D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dis la Gemara? La Gemara te dit, mais attends,
c'est général.
Rabbi Yochanan n'a pas compris comme toi. Rabbi Yochanan a dit que Rabo chez l'Imdo Chorma, quand on dit son maître qui lui a appris la Chorma, d'après Rabbi Yochanan, c'est quoi Chorma? C'est pas lui a appris à réfléchir. Parce que des fois, une personne peut apprendre à réfléchir en quelques heures, ou quelques jours. Et après, la majorité de ses choses, il a appris quelqu'un d'autre. Mais non. Rabo chez l'Imdo Chorma, c'est quoi? C'est son maître qui lui a enseigné les Lamed, qui lui a enseigné la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la Torah. Ça veut dire, alors, s'il y en a plusieurs, ben on va prendre celui qui a enseigné la majorité.
Le Rav, ouais.
Le Rav. D'accord?
Alors
donc, a priori, c'est comme ça que Rabbi Yochanan explique notre Mishnah.
Mais je vois pas comment on répond à la question.
D'accord. Très simple. C'est que Rabbi Yochanan va expliquer que dans notre Mishnah, Rabo Shelim de Chorma, son maître qui lui a enseigné la Chorma, ça veut dire quoi? Ça veut dire son maître qui lui a appris la majeure partie de sa Chorma. Donc dans ce cas-là, ça va très bien avec la vie de Rabbi Yehuda. Donc on comprend.
Non, ça va pas être Rabbi Meir.
Très bien. Mais ça ne va pas être Rabbi Meir.
Ben si.
Pourquoi?
Puisqu'il dit qu'on doit suivre Stam Mishnah.
Très bien. Mais lui, Rabbi Yochanan, il te dit, Rabbi Yochanan, il t'explique que Stam Mishnah, elle a dit autre chose. Rabbi Yochanan t'explique que la Stam Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Rabo Shelimdo Chorma. Son maître qui lui a appris la Chorma. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est quoi la Chorma d'après moi? Elle a dit, c'est quoi la Chorma d'après moi? Qu'est-ce que la réponse de Gemara?
La sagesse.
La Chorma, elle a dit c'est en quantité, c'est pas de la qualité.
Oui.
Donc dans ce cas-là, c'est la vie de Rabbi Yehuda.
Oui, je suis Rabbi Yehuda.
Donc on comprendrait pourquoi Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan que la Halakha est comme Rabbi Yehuda.
Mais pourquoi, c'est quoi notre problème alors? Je vois même plus le problème maintenant. Alors. C'est quoi le problème au départ? C'est que Rabbi Meir, il disait que c'était...
Notre problème, c'est qu'a priori, notre Mishnah, on avait l'impression que notre Mishnah disait le contraire. Notre Mishnah, elle a dit « Rabo Shelimdo Chorma », son maître qui lui a appris la Chorma. Et nous, on a compris que ça veut dire quoi, Chorma? Ça veut dire qu'il a appris à réfléchir. Donc dans ce cas-là, c'est la vie de Rabbi Meir.
Ben voilà.
Donc dans ce cas-là, comment Rabbi Yochanan peut dire le contraire de Rabbi Meir? Et là, on te dit non. On te dit « Rabo Shelimdo Chorma », le terme « Chorma » en hébreu peut vouloir dire plusieurs choses. « Chorma » en hébreu peut vouloir dire la quantité et peut vouloir dire la qualité.
D'accord.
Rabbi Yochanan a compris que « Chorma » ici veut dire la quantité.
Grove, parce que...
D'accord.
Si c'est pas on n'a pas la preuve.
De toute façon, on n'a pas la preuve. Voilà. C'est la quantité. Pourquoi? Parce que c'est la quantité qui amène la qualité.
Ah bon?
Eh oui. C'est pas la qualité qui amène la quantité. Là, c'est une grande marque qu'il y a dans la Gemara.
Ah bon.
Est-ce qu'il faut privilégier
la quantité ou la qualité?
La quantité
ou la qualité.
Ou la qualité. Et la conclusion de la Gemara, c'est que pour la galoute, pour quand on est en exil, il faut privilégier
la quantité.
Puisqu'on considère qu'avec la quantité... La qualité, elle viendra obligatoirement. Alors qu'avec la qualité, c'est pas forcément que la quantité viendra. Vous allez avoir des gens, toute leur vie, ils vont étudier quelques pages de Gemara. Bon, c'est bien beau, mais dans les faits, il va arriver un moment, on va dire, bon, qu'est-ce que t'as étudié?
Ouais.
Je peux quand même répondre que...
C'est vrai.
Mendy, est-ce que tu crois que j'ai besoin de toi?
On n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi, comme vous avez dit. Alors, Tanoura Banane. D'accord. Donc a priori, la Gemara, donc a priori, la Halakha est comme Rabbi Yehuda. D'après ce qu'on dit ici, d'après Rabbi Yochanan en tout cas. Que qu'est-ce qu'on considère son Rav, le Rav qui passera avant son père, c'est un Rav qui m'a appris la majeure partie de ma sagesse.
Dans la quantité.
D'accord, dans la quantité.
D'accord.
C'est ce qu'on considère son Rav. La majeure partie de sa sagesse. De ce qu'on considère être la sagesse en tout cas.
Aujourd'hui, avec tous les cours qu'il y a avec les cassettes, les DVD, etc.
Oui.
Vous considérez que tout le monde c'était rabbani, mais alors tu écoutes un cours de quelqu'un.
Tu suis la majorité, celui qui a pris la majorité.
Exactement. Ah bah oui, tu es à toi de voir.
À toi de voir celui qui a pris la majorité.
C'est difficile de savoir parce que tu peux en écouter un et peut-être t'apprends moins que l'autre. C'est difficile de savoir.
Non, la majorité c'est en quantité. Celui qui t'a pris la majorité de choses. La majorité de tes sagesse.
C'est difficile de savoir.
La quantité que tu as assimilée.
Ou que tu as. Toi c'est la chassidoute.
Quantité que tu as assimilée. Ouais. Tu as.
À mon avis, j'avais 200 cours de Rav Citruc, j'avais 100 cours de Rav Argonter, j'avais 50 cours du Rav Eman.
C'était le Rav Citruc à cette époque-là.
Excuse-moi.
Mais il m'a plus marqué le Rav Eman que le Rav Citruc.
C'est pas, on ne te dit pas celui qui t'a marqué le plus.
Tu ne cherches pas sur la connaissance quand elle rentre.
Tu dis la majorité de la sagesse. Pardon.
Quand tu vas à un cours, un chiot, et que tu as une quantité, et que tu as une bonne quantité, mais toi, sur la quantité, tu as assimilé, disons, 40-50%. C'est ce que tu as assimilé ou ce que tu as
été c'est subjectif, ça veut dire, on parle de le Rav qui t'a appris la majorité de ma sagesse, de ce que je connais.
Ah d'accord, ok, d'accord.
De ma manière de voir les choses.
D'accord.
Qui c'est qui m'a appris la majorité de ma manière de voir les choses? C'est évident, c'est la chassine. Bon. Alors,
excuse-moi, pour la Mishnah,
C'est pas shoot.
Pour la Mishnah anonyme, en général...
Pour moi, c'est pas shoot,
c'est clair, c'est clair, c'est clair.
En général, la règle générale pour les Mishnayot anonyme, la Gemara fait allusion souvent à des Mishnayot qui n'y a pas de marque-loquette, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord, pratiquement.
Oui, mais le problème, c'est que des fois, vous avez d'un côté une Mishnah anonyme...
Je pose la question. Hein.
Oui, j'ai compris. D'accord. C'est que d'un côté, des fois, on a une Mishnah anonyme sur laquelle il n'y a pas de marque-loquette, et cette même Mishnah, elle est répétée des fois dans une autre Maseret, dans un autre traité de... Et là-bas, il y a une marque-loquette. Alors, on ne sait pas quoi faire. Je dis, attends, mais pourtant, c'est le même Rabbi Yehuda HaNassi qui a écrit les Mishnayot. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous?
On voit celle qui est anonyme.
Quand il a écrit la Mishnah anonyme, il savait très bien qu'en vérité, il y avait une marque-loquette. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, dans ce cas-là, d'après moi, ça veut dire que cette Mishnah a été écrite après, et que ça veut dire qu'il faut suivre la halakha de cette Mishnah.
D'accord. La Gemara est d'accord avec?
Non, la Gemara n'est pas d'accord avec. La Gemara a simplement posé la question sur Rabbi Yochanan.
Ouais, d'accord.
Elle dit, comment le même Rabbi Yochanan qui a dit que la halakha est comme cette Mishnah peut dire ici une halakha qui n'est pas comme cette Mishnah? Elle répond, elle dit qu'on peut expliquer que l'alakha est comme cette Mishnah. C'est tout.
D'accord.
C'était juste un dialogue autour de Rabbi Yochanan.
D'accord.
Maintenant, la Gemara, elle continue. D'accord. Tanou Rabban. Ah, c'est bien ça. Alors, la Gemara va essayer de nous dire quel est le derer, quel est le chemin qu'une personne doit choisir dans le limoud, dans l'étude. Puisque justement, tu m'as dit la majorité de ma sagesse. Alors, comment je dois composer, de quoi doit être composée ma sagesse? C'est ça la grande question. Donc, Tanou Rabban, et Chachamim enseigné dans une braïta. Aoskim Bamikra, ceux qui passent la majorité de leur temps à étudier Mikra. C'est quoi Mikra?
Torah écrite,
ça veut dire la Torah écrite, ça veut dire la Torah, Neviim et Ketuvim. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cela? On dit Mida Veena Mida. Ces gens-là, on dit que Mida Veena Mida, d'accord, ça veut dire quoi? On dit que d'un côté, ce qu'ils font, c'est bien, d'accord, c'est bien, mais c'est pas le top. Pourquoi? Parce que on va expliquer ici que le pasouk, enfin étudier le pasouk qui ne suffit pas, il faut étudier par derrière l'étude, d'accord, de la Mishnah et de la Gemara, etc., qui vont nous expliquer ce que vous voulez dans le pasouk. On est d'accord? Très bien. Ba Mishnah, Mida. D'accord, on va noter. Alors à l'époque on n'était pas A, B, C, D, on notait Mida Vena Mida, ça veut dire c'est moyen. Après tu dis, bon, je te donne une note de A, d'accord, après c'est, etc. Donc. Premier niveau, on a dit ceux qui passent leur temps à étudier que le texte.
Que le pshat. Hein.
Que le mikra, le pasouk. Les gens qui ont toute leur tête qui est focalisée sur la Bible. Il y a des gens comme ça. Bon, peut-être moins chez nous aujourd'hui, mais il y a des gens comme ça qui sont focalisés sur que sur la Bible.
Et malgré tout, il y a des réponses très intéressantes.
Très intéressantes. Très intéressantes. On dit cela, mida vena mida. Ça veut dire c'est moyen.
D'accord.
Ensuite.
Ensuite, Mishnah.
D'accord.
Mishnah,
alors, mida. Qu'est-ce qu'il nous explique Rashi? D'accord. Rachid explique quelque chose suivant, ça c'est très important à comprendre. Rachid explique qu'à l'époque, à l'époque, la Mishnah et la Gemara n'étaient pas écrites.
Donc pour étudier
Donc la seule chose qui était écrite, c'est quoi? C'était Torah, Neviim et Ketuvim. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on disait? C'est l'avis de Rachid. Le second, c'est pour ça qu'est-ce qu'il dit Rachid. Rachid dit dans ce cas-là, il dit, ceux qui vont se focaliser toute leur vie sur le Mikra, sur la Bible, c'est bien. Mais c'est pas le top. Pourquoi c'est pas le top? Parce que c'est de toutes les façons c'est écrit, il n'y a pas de risque que ça va s'oublier. Alors que la Mishnah et la Gemara qui ne sont pas écrits, il y a un risque qu'ils vont s'oublier avec le temps. Donc le fait de ne pas s'en occuper, c'est pas bien.
Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui récitait, t'as parlé par cœur, comment ça se passait alors?
Pardon?
Comment ça se passait concrètement?
Mishnah et Gemara, par cœur.
Donc pendant toi tu donnais le cours, nous on était là comme ça, tu récitais par cœur.
Exactement.
Et on répétait comment ça se
passait? Je répétais 100 fois. jusqu'à ce que ça te sorte des narines.
100 fois.
100 fois.
Depuis Moshe Rabbeinu.
100 fois.
Et je peux... apprendre
Je peux te dire, quand tu répètes quelque chose 100 fois, il bouge pas. Hein. Ouais. Tu le connais par cœur. Essaye de relire un texte 100 fois, tu vas le connaître par cœur.
Ouais, c'est vrai.
L'impulsion de l'idée.
Alors, ça c'est la vie de Rashi.
Même les virgules.
Donc la vie de Rashi, alors c'est intéressant parce qu'on a ici une marque entre Rashi et Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il explique comme ce que je vous expliquais au début. Il dit que pourquoi c'est pas bien de se focaliser uniquement sur le micro, sur le chumash, parce que dans le chumash, on n'apprend pas les détails des halakhot. Alors dans la Mishnah, on va commencer à entendre les détails des halakhot. C'est Rabbeinu Hananel. Donc il dit qu'apparemment, il y a un problème dans ceux qui se focalisent uniquement sur le Mikra, donc sur la Bible. Rachid dit pas comme ça. Rachid dit non. Rachid dit c'était un problème purement technique. C'est qu'on avait peur que si tout le monde allait se focaliser uniquement sur le chumash, et ben du coup, on allait oublier. Donc apparemment, si on suit la vie de Rachid, aujourd'hui que tout est écrit, que même que la Mishnah, la Gemara, le chumash, tout est écrit, d'accord, Baruch Hashem, est-ce que celui qui privilégie le chumash au lieu de la Gemara, est-ce que c'est pas bien? Non, après Rachid, non. Après Rabbeinu Hananel, lui. On est d'accord ? D'accord. Alors.
C'est toujours un manque quand même.
D'après Rabbeinu Hananel, Rachid dit, d'après Rachid, c'est pas ça la question. Rachid dit ici que le problème.
Il risque pas d'être oublié.
Voilà, c'est un problème d'oubli. Mm-hmm. C'est intéressant.
Ouais, si je reste oublié, parce que si tu as plein de livres et que tu n'as pas beaucoup de gens qui ont étudié, tu veux l'oublier même avec des livres.
Plus hein. Que tu as les livres. Non mais.
Il y a un risque quand même. Hein.
De quoi ?
S'il n'y a plus de gens pour étudier, il y a un risque, évidemment.
Alors, toujours des gens qui étudient.
Apparemment, le risque qu'il y avait à l'époque, c'était pas d'avoir moins de risques. C'est pas qu'il y a moins de gens qui vont étudier, c'était que.
Oui, mais ton risque est différent.
Voilà, c'est que comme c'est pas écrit, donc il faut un maximum de gens qui étudient pour transmettre le savoir.
Non, maintenant, il y a le risque, il est différent, mais il est toujours là. C'est pas parce que c'est écrit que ça veut pas.
Oui, mais Rachid nous dit que le problème, il était à l'époque, d'accord.
C'est encore plus.
Ça veut dire que. C'est pas que la Gemara vaut plus que la Mishnah. C'est pas ça. Que la Gemara vaut plus que le Chumash. C'est que comme un est écrit et l'autre n'est pas écrit, c'est ce qui fait la différence. Mais si les deux sont écrits, apparemment, il n'y a pas de différence.
Non, mais t'es d'accord que si par exemple, t'as une synagogue remplie de livres, mais t'as qu'une personne qui vient.
Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ensuite, Bamishnah, d'accord. Ceux qui sont focalisés sur la Mishnah.
D'accord.
Donc ça, j'aurais dit aujourd'hui, c'est ceux qui sont focalisés sur la halakha. Halakha, ça veut dire que bon, ils apprennent la halakha de manière sèche, mais sans comprendre particulièrement les raisons de chaque chose. Et ça veut dire qu'au moins, ils vont traduire le chumash en halakha. C'est pas mal, ça. Donc qu'est-ce qu'on dit pour ces personnes-là? Ça, on dit mida. Ça, c'est pas mal.
Parce qu'il dit, Merkila, il dit que celui qui n'utilise pas la halakha, sa gemara ne vaut pas grand-chose.
Oui, d'accord. Non, mais là, on parle des gens qui gardent la halakha. On dit sur quoi on se focalise, sur quoi mon étude est focalisée. Alors, donc, mida, ceux qui sont focalisés sur la Mishnah, mida, c'est-à-dire c'est quelque chose de bien, venutlim alea sacha. Et ils prendront un salaire sur ça. Ça veut dire qu'ils seront récompensés pour ça. Ça veut dire parce que c'est une bonne chose, c'est bien. Ceux qui se focalisent sur la Mishnah. On comprend pourquoi maintenant, d'après Rashi, parce que quand on se focalise sur la Mishnah, on se focalise sur quelque chose qui n'est pas écrit, donc on va transmettre le savoir. Et selon Rabbeinu Hananel, c'est parce que grâce à ça, on pourra connaître un peu plus les détails des halakhot qui sont tirés du Chumash. Très bien. Troisième chose maintenant, mais ceux qui se focalisent sur la Gemara, c'est-à-dire quoi la Gemara? D'accord? La Gemara, ça veut dire, ceux qui vont se focaliser sur la Gemara, ça veut dire sur les raisons de la Mishnah. Essayer de développer, de décortiquer les raisons de chaque côté. D'accord? Ou bien ceux qui vont essayer de décortiquer, est-ce que cette Mishnah, elle suit l'avis de tel rav ou de tel rav et les contradictions apparentes entre les Mishnayot, etc., comme ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, En lecha midak de la miso.
Il
n'y a pas plus grand que ça.
Il ne parle pas de la racine, d'accord, excuse-moi.
Parce que dans la Gemara, on ne parle pas du tout de la Kabbalah. Mais les mêmes rabbanim qui ont écrit la Gemara, c'est les mêmes noms qu'on retrouve dans le Zohar. Et la Gemara Souka d'Afraftet, Gemara Souka page 29, elle dit là-bas, elle dit, Amarava, Rava, il dit que Avayot de Abaye et Rava, les marloquettes qu'il y a, l'existence entre Abaye et Rava, c'est Davar Katat, c'est une petite chose. Et Mas et Bereshit, quand on étudie comment s'est passée la création du monde, on étudie ce qu'on fait quoi, dans la pensée juive, Davar Gadol, ça c'est une grande chose. Déjà à leur époque, ils disaient ça. Il y a des petites illusions dans la Gemara. C'est les mêmes auteurs, n'oubliez pas, c'est les mêmes auteurs. Dans le Zohar, on retrouve les mêmes, exactement les mêmes, enfin, pas tous, mais la majeure partie du Zohar, c'est les mêmes auteurs que ce qu'on retrouve. Rabbi Zera, Ravuna, Rafrida, voilà Rafrida, on vient d'en parler. Ravuna, tous, on les retrouve. D'accord? Et apparemment, pourtant, c'est deux mondes complètement différents. Parce qu'ils avaient les deux. Alors, non, c'est pas fini. On dit, ou Léolam, Everat, le Mishnah, il termine la Gemara. Et pourtant, qu'est-ce que conclut la Gemara? Elle dit qu'il faut toujours courir à la, pour aller étudier la Mishnah, plus que la Gemara.
Oh là 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 là.
C'est un problème.
C'est le contraire.
D'un côté, tu me dis qu'il n'y a rien de mieux que la Gemara, et de l'autre côté, tu me dis qu'il faut toujours courir à la Mishnah. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, Agufa Kashia. Je comprends pas, ta Braïta, elle a un problème, là. Il y a une contradiction dans ta Braïta. Amra, tu m'as dit au début de la Braïta que sur la Gemara, Bigmara, Shen, Lechamidak, de la Miso, tu me dis sur la Gemara qu'il n'y a rien de mieux que la Gemara. Donc ok, donc on va focaliser sur la Gemara.
Peut-être sur les priorités.
Dar, Amra, t'es juste après, tu me dis que Uleolam et Verat, le Mishnah, il termine la Gemara. Juste après, tu me dis qu'il faut courir pour la Mishnah plus que pour la Gemara. Défie-toi, mon ami.
C'est pas contradictoire, c'est au niveau des priorités.
Ah non, il y a une contradiction là. D'un côté tu me dis qu'il n'y a rien de mieux que la Gemara. Et d'un autre côté tu me dis qu'il faut courir pour la Gemara, pour la Mishnah, pardon, plus que pour la Gemara. Donc si tu me dis que la Gemara est plus importante que la Mishnah, dans ce cas-là, pourquoi tu veux que je cours pour la Mishnah? C'est quoi cette histoire de courir pour la Mishnah?
On ne veut pas que tu délaisses la Mishnah si tu vas utiliser la Gemara, non?
Ah non, non, non. C'est une contradiction là.
C'est une contradiction. Allez.
C'est, ça saute aux yeux.
D'accord, oui, mais peut-être l'enseignement qu'on essaie de...
On va voir. Ouais. On va la réponse de Rabbi Yochanan. Ah ma Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit la chose suivante, il dit. Bimé Rabbi Mishnet Mishnazo. Là vous allez comprendre pourquoi Rachid a dû expliquer comme ça. Bon.
Bimé Rabbi Nishmat Mishnazo.
Dans la page.
Oui.
Alors,
d'accord. Amar, donc il dit comme ça, il dit. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit. Bimé Rabbi, donc vous voyez, on va bientôt finir Bezrat Hashem. Bah, on peut finir aujourd'hui la vérité. On va finir aujourd'hui le Baba Metzia. Enfin, le chapitre Ilou Metziot. Et Bezrat Hashem, dans les cours suivants qu'on aura jusqu'à Pessah, je vais vous amener une photocopie du Shulchan Aruch. On va étudier dans la Halakha, d'accord, les conclusions de tout le chapitre Ilou Metziot. Et vous allez voir comment quand on va voir la Halakha, on va revoir exactement les mêmes cas qu'on a revus ici, mais ceux qui vont être décortiqués en mode Halakha.
Ils seront décortiqués en mode Halakha depuis la Gemara, pas depuis le Mishnah.
Bien sûr. Ah bien sûr.
C'est tout à l'heure, t'as dit quand on parle de Mishnah, on parle de...
Non, je peux pas parler de la réponse. Je dis que quand j'ai fini, quand on aura fini tout ça. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Rabbi Yochanan, il répond, il dit, Bimé, Rabbi Mishnet Mishnazo. Rabbi Yochanan nous répond, il nous dit que cette Mishnah a été enseignée à l'époque de Rabbi Yudan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut pas oublier, Rachid explique la chose suivante.
Ah, ouais.
D'accord? Il dit... Cette braïta, qui a été enseignée donc avant la génération de Rabbi Yudan Hassim, c'était à cette époque-là de seconde. À cette époque-là, hein, il y avait beaucoup de machloquettes dans le peuple juif. D'accord? Et il y avait beaucoup de machloquettes entre les avis, il y avait beaucoup d'avis par-ci, par-là, etc. Et le problème... Non, qui était le Shem Shemaim. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas l'énergie, ils n'avaient pas la possibilité d'aller vérifier la halakha comme qui. Pourquoi ils n'ont pas la possibilité? Parce que Rachid explique, il dit qu'à cette époque-là, on était tellement asservis par le royaume de l'époque, que les gens, ils voyaient un avis qui dit ci, un avis qui dit ci, un avis qui dit ça, un avis qui dit ça, du coup ils étaient perdus. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? On va voir le Rav. Mais tellement ils souffraient, tellement ils étaient en galère, qu'ils n'avaient pas le temps d'aller voir le Rav. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que Kim'at Nishtakra Torah, comme Rachid dit, la Torah a pratiquement été oubliée. Ben oui, parce que quand un sujet n'est pas clair et qu'on n'a pas la possibilité de le clarifier, ben qu'est-ce que tu fais? Tu zappes.
Exactement.
Ben d'accord? C'était une réalité. Alors, à l'époque de Rabbi Nathan, à l'époque par exemple de Rabbi, d'accord, le roi leur a donné la permission. Quel roi? Le roi Antoninus, donc le roi, il y a beaucoup d'histoires entre le roi Antoninus et Rabbi Yudan aussi. Il leur a donné la permission d'étudier la Torah. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit de se rassembler pour étudier la Torah. Tout rassemblement pour étudier la Torah était interdit.
C'est dit à l'histoire de Yavné ou pas? Ça
rien à voir. Non. Pas encore. Non. À l'époque de Rabbi Yudan Hassi, avant Rabbi Yudan Hassi, il y avait tellement de marloquettes que les gens étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Il y a d'un côté tu disais, d'un côté tu disais, mais ils ne savaient pas quoi faire. Et du coup, comme ils ne savaient pas quoi faire, ils disent, bon, ben dans ce cas-là, il y a personne. Ils n'avaient pas le droit de venir au Beit HaMidrash parce qu'il n'y avait pas de Beit HaMidrash.
Dans le doute, abstiens-toi.
C'était assourd. Donc dans le doute, ils fermaient les livres, ils ne savaient pas quoi faire avec. Ils n'avaient pas le droit de se rassembler pour étudier. Donc la Torah est en train d'être perdue. À l'époque du Rabbi Yudan Hassi, comme j'ai dit, le roi Antoninus, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara entre Antoninus...
Il devait le faire quand même.
Il faisait, mais en...
En cachette.
En cachette.
Ah, d'accord, oui,
donc ça veut dire que la Torah est en train d'être oubliée d'Israël.
C'est vrai, le clan.
Du peuple. D'accord. Donc, à l'époque du Rabbi, le roi Antoninus leur a donné la permission d'étudier la Torah, et du coup, les élèves ont commencé à se rassembler. Donc, c'est là qu'on a commencé à former des bêtes midrash. Et alors, dans ces bêtes midrash, C'est là le début de la Gemara. Dans ces bêtes à Midrash, chacun a ramené les enseignements qu'il connaissait au nom de ses maîtres. D'accord ? Et on a essayé de décortiquer les raisons des halachot, les raisons des machloket. Et c'est là que Rabbi Yehuda HaNassi est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda HaNassi ? Rabbi Yehuda HaNassi a commencé à expliquer les raisons, donc il a essayé de prendre toutes ses conclusions, les conclusions de ces chavourot, on les appelait les chavourot. Donc c'était des groupes comme ça. C'est comme des groupes aujourd'hui, vous avez des fois des groupes de scientifiques qui se rassemblent comme ça. Des groupes dans des universités, vous avez des groupes. Donc on a eu des groupements qui sont formés. Et Rabbi Yehuda HaNassi, son rôle, c'était quoi ? C'était de tirer les conclusions de ces groupements et de compiler grâce à ça la Mishnah. Très bien. Donc vous comprenez qu'à l'époque de Rabbi Yehuda HaNassi, la Gemara était très importante. Pourquoi la Gemara était très importante ? Parce que la Mishnah, on la connaissait déjà à son époque. Sauf que la Mishnah, c'est à cause d'elle, si on peut parler comme ça, que la Torah est en train d'être perdue. Parce que les gens ne connaissaient pas les raisons, donc ils n'arrivaient pas à tirer des conclusions, donc on était perdus. Donc qu'est-ce qu'il a conclu Rabbi Yehuda HaNassi ? C'est Rachid qui explique comme ça, parce que sans Rachid, on ne comprend rien du tout à la Gemara ici. Qu'est-ce qu'il a conclu Rabbi Yehuda HaNassi ? Rabbi Yehuda HaNassi a conclu, il a dit, maintenant le problème, il nous faut de la Gemara. Mais la Gemara orale. Il dit, on va écrire la Mishnah. Pour écrire la Mishnah, on va rassembler tout le monde. Que tout le monde nous dise ce qu'il a entendu de ses maîtres. On va essayer de décortiquer dans tous les sens. Et après, on va compiler ça par écrit. Vous comprenez que pour compiler ça par écrit, pour compiler un texte par écrit, il fallait qu'il y ait des discussions. Un maximum de discussions. Il fallait qu'il y ait un maximum de discussions et que chacun essaye d'expliquer ce que ses maîtres voulaient dire. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, la Gemara était très importante.
La Mishnah ?
Non, la Gemara.
Oui, enfin bon, elle était orale, la Gemara.
Justement. Pourquoi la Gemara était très importante ? Parce que c'est la Gemara. La Gemara, ça veut dire que c'était l'enseignement des raisons qui allait nous permettre de compiler la Mishnah et de remettre de l'ordre dans le Ham Israël.
D'accord. Donc c'est pour ça D'accord. que pour lui, il dit qu'il fallait courir.
Mais après, voilà. Non ! C'est ça qu'il dit qu'il fallait courir pour la Gemara. Ah.
Eh oui, la Gemara, oui.
Pas la Gemara écrite qu'on connaît. La Gemara, ça veut dire les raisons des halachot, les raisons des Mishnayot.
Oui.
Parce que c'était très important. Parce que c'était ça qui était, c'était malheureusement ces Mishnayot qui étaient à la source du fait que la Torah précise, était en train d'être perdue d'Israël.
Voilà.
Mais une fois qu'après Rabbi Yehuda HaNassi a réussi à recompiler le tout, il a réussi Baruch HaShem à remettre de l'ordre dans Israël. Après on a eu des Mishnayot et tout est reparti. Adar Vedarash Lehu, d'accord. Ensuite il leur a dit, maintenant que tout est clair, Uleolam Verat Li Mishnayot Amin Gemara. Mais en vérité, il leur a dit, maintenant, il faut toujours courir pour étudier la Mishnah, plus que pour la Gemara. D'accord ? Alors, dans les faits, bon, ça, la vérité, c'est qu'on étudiera... Quelle heure il est ? Je crois que c'est déjà l'heure. Bon, je m'arrête ici. On finira la semaine prochaine. Vous voulez qu'on avance encore un peu ?
Non, parce que moi, je dois aller
Au Beth
Almim.
Ah bon, venez, vas-y, j'ai encore un peu.
Alors.
Alors, la Gemara a dit comme ça, elle dit Maï Darouche. Comment Rabbi Yehuda HaNassi a appris ça ? D'où Rabbi Yehuda HaNassi a appris que les halachot étaient plus importantes. C'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda HaNassi, le plus important c'est d'apprendre la halacha. On va s'arrêter à Darash Rabbi Yehuda Barilaï. On s'arrêtera ici. Alors, donc Maï Darouche, pardon. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda HaNassi a appris ça ? C'est-à-dire qu'a priori, selon Rabbi Yehuda HaNassi, le plus important c'est quoi ? C'est la Gemara ou la halacha ?
La Gemara.
Non.
Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est le Rabbi.
C'est la Mishnah.
C'est la Mishnah, donc ça veut dire que c'est la halacha.
Non, mais à l'époque, c'était la Gemara.
À une époque précise, pour quelques années,
oui, parce
c'est la Gemara.
De...
Il y avait un problème ponctuel. Ouais, ouais. D'accord, mais ce problème s'est arrêté après.
D'accord. Oui.
Donc ça veut dire que lui, il dit que le plus important, c'est la Mishnah. C'est la halacha. D'où il sait ça ? Que des Darij Rabbi Yehuda Bar Ilai. Comme Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Ilai, a dit la chose suivante. Il dit Maï Dirtiv. Comment comprendre le verset qui est écrit dans Isaïe ? Qui dit là-bas. Il lui a dit, Veaged le ami Pisham ou le vet Yaakov Khatotam. Il dit comme ça. Il dit là-bas, Dieu il dit au prophète Isaïe, il lui dit là-bas, hein, il lui dit, élève ta voix comme un. Alors, peut-être vous avez le pasouk ici à la gauche. Ah voilà, vous l'avez très bien, ma prochaine Torah. Venez, on va le lire en pasouk entièrement. Kira Begaram, tu es
ici.
Donc il dit comme ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au prophète Isaïe, il lui dit la chose suivante, il lui dit Kera Begaron Altarsor. Crie avec ta gorge, Altarsor, d'accord, et ne ménage pas les efforts pour crier. Quand on dit à quelqu'un de ne pas ménager ses efforts, c'est-à-dire que c'est très important. C'est Dieu qui parle à Isaïe. Il lui dit Kashofar Arem Kolecha, élève ta voix comme le son du chauffard. Pour dire quoi ? D'accord ? Pour dire quoi ? Pour dire Veaged Lev Ami Pisham, va raconter à mon peuple leurs fautes. Ou le vet Yaakov, Khatotam, et à la maison de Jacob, d'accord, Khatotam, leur erreur. D'accord, donc, vous voyez bien les textes ici. Il dit, va raconter à mon peuple leur pécha, leur faute, et va raconter à la maison de Jacob, leur khatat, leur faute aussi. Écoutez bien, on repasse à la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara? Il dit qu'il est d'Arij, Rabbi Pesah, qu'il est d'Arij, Rabbi Udabari, là, comme Rabbi Udabari, là, il a dit, comment comprendre le verset que Dieu, qui est écrit, que Dieu a dit à Isaïe, il a dit, donc élève ta voix sans ménager tes efforts, et tu devras dire, Ve'aged la mi pisham, Ulvet Yaakov ratotam, que tu devras raconter à mon peuple leur faute, et à la maison de Jacob leur erreur. Dit comme c'est dit, Aged la mi pisham, quand on dit Aged la mi pisham, va raconter à mon peuple, comme vous avez remarqué, il dit « Mon peuple est la maison de Jacob ». Mon peuple n'est pas ma maison de Jacob. Mon peuple est la maison de Jacob. Alors, d'accord ? Très bien. Alors, il dit la Gemara comme ça. Il dit « C'est quoi mon peuple ?» Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Dabari Lai ?« Elu talmide chachamim » Ça, c'est les talmide chachamim. « Sheshgagot na'asot lahem kisdonot » Que leurs erreurs, qui font par inadvertance, sont considérées comme si qu'ils les avaient fait en faisant exprès. Ça veut dire qu'il n'y a pas, de... Comment on dit, il y a un proverbe en français qui dit que... comment on dit que « Nul n'est censé ignorer la loi ». Quand ça n'existe pas, tu ne peux pas ignorer la loi. Ça veut dire quoi
pour les,
oui, c'est ça qu'il dit, Ve'aged les amis, Dieu a dit au prophète Isaïe, va raconter à mon peuple. C'est qui mon peuple, dit la Gemara, c'est les Talmidei Chachamim. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Pisham. Pécha en hébreu, c'est une faute qui est faite de Chavana, qui est faite, on a envie de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. De qui on parle? On parle des Talmidei Chachamim. Que les Talmidei Chachamim, une erreur qu'ils font sans faire exprès, une erreur sans faire exprès, c'est considéré comme si ils ont fait exprès. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient qu'à apprendre. Ou le Vet Yaakov Ratotam, et alors écoute bien ce qu'on va dire ici, ou le Vet Yaakov, on a pris dans le cours de Gemara, on a fait, dans le cours de Tania, pardon, qu'on avait fait sur le chapitre 33, on avait parlé de ça. Ou le Vet Yaakov Ratotam, quand on lui dit que va raconter à la maison de Jacob leur faute, Ratat en hébreu, c'est une faute qui est faite sans faire exprès, oui. Comme le Corban Ratat, et l'Ouame Aharet, ça c'est le peuple, qui ne sont pas Talmid Chachamim, chez Donot, Naasot Lahem Kishgagot. Que Akadosh Baruch Hu dit, même lorsqu'ils font une avéra en faisant exprès, je considère qu'ils ne connaissent pas assez les détails de la halakha et c'est pour ça qu'ils ont fauté. Donc je considère comme s'ils ont fait par inadvertance. On rappelle dans le cours de Tania, chapitre 33, on avait expliqué qu'avec ça, un Talmid Chacham doit comprendre que même si des fois il voit un rachat en train de faire une avéra, il doit se rappeler que l'avérote que nous on fait, l'avérote qu'un religieux y fait, même par inadvertance, c'est considéré comme s'il a fait Bémézid en faisant exprès. Alors que de l'autre côté, l'autre que tu vois en train d'être rachat, d'accord, en vérité, Kadosh Baruch Hu, ce que lui il est en train de faire en faisant exprès, il le considère comme s'il l'a fait sans faire exprès. Donc il faut prendre les bonnes proportions. C'est la Gemara qui dit. Alors, donc, Aïnou Ditnan, c'est pour ça que Rabbi, c'est pour ça qu'on enseignait, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Iti, et Vezahir Betalmud, fait très attention, Betalmud dans l'étude, ça veut dire de bien comprendre les Mishnayot, pourquoi? C'est Shigat Talmud en Lazadon. Parce que le fait de mal comprendre une Mishnah, Ola Zadon, c'est considéré, même par inadvertance, c'est considéré comme si on a fait exprès. Et alors, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'avec ça, la Gemara va expliquer comment ça se fait que de quel droit, Rabbi Udanassi, pour une certaine période, il s'est permis de dire que comprendre les Mishnayot était plus important que les étudier. Que décortiquer les Mishnayot, c'est plus important que les étudier. De quel droit il s'est permis? Parce que il s'est basé sur ce verset-là, que Dieu parle au prophète Isaïe, et que Dieu lui dit que quand une personne ne connaît pas parce qu'il n'a pas appris, si c'est un Talmid Chacham, on considère comme si il a fait exprès. Donc Rabbi Udanassi, il a réfléchi, il a dit, attends, c'est quoi le problème de la génération? Le problème de la génération, c'est qu'on étudie les Mishnayot, mais qu'on ne les comprend pas. C'est ça le problème, oui. C'est qu'on étudie les enseignements, mais on ne les comprend pas. Donc, puisque dans ce cas-là, quand on va arriver au monde de la vérité, au Olam HaEmet, qu'est-ce qu'il va nous dire à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu ne va pas dire, bon, c'est pas de votre faute, Béchogek. Non. Kadosh Baruch Hu, il va dire, vous aurez dû apprendre. Donc c'est pour ça que Rabbi Udanassi s'est basé sur ça. Il a dit, dans un premier temps, pendant quelques années, on va se focaliser sur la Gemara, c'est-à-dire sur les raisons des Mishnayot. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça on pourra dire que puisqu'on a fait tout notre possible pour ne pas être, pour ne pas faire des erreurs, là dans ce cas-là on pourra dire que Kadosh Baruch Hu, si on a fait une erreur, il nous pardonnera. Mais au moins on aura essayé. Mais une fois qu'après il a compilé la Mishnah, dans ce cas-là, après il a dit, bah, dans ce cas-là, on repasse à la Mishnah. C'est-à-dire de là on apprend quelque chose de très important. Que chacun à son niveau, c'est très important aujourd'hui d'apprendre la halakha. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui pouvait apprendre la halakha et qui ne l'a pas apprise, s'il n'a pas appris la Gemara, bon, on ne le reprochera pas. Je veux dire, la Gemara, c'est les raisons des choses, bon, il ne connaissait pas la raison. Mais par contre, avoir fait une erreur dans les faits, une erreur pratique, si j'avais la possibilité d'apprendre et je n'ai pas appris, ça nous sera reproché plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on a le choix entre la Mishnah et la Gemara, ça veut dire entre la halakha, mais entre les conclusions et la Gemara, qu'est-ce que je dois choisir? La Mishnah. Si je peux faire les deux, c'est encore mieux.
Bien sûr.
Mais si j'ai le choix entre un des deux, lequel je choisis, la halakha. Parce que ça, on me le reprochera. On dira, t'avais le temps, t'as pas fait.
Ah, d'accord.
Donc je dois choisir la halakha. C'est-à-dire le plus important, c'est comment je vais me comporter dans les faits. Et si je pouvais apprendre et j'ai pas appris, c'est considéré Shigat Talmud de la Zadon. Shigat Talmud de la Zadon, c'est encore plus que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir étudié, et ça même, c'est déjà considéré comme une avéra.
On te dit que ce qui amène le plus de lumière dans le monde, c'est l'étude.
Bien sûr. Attention. Si celui qui veut faire les deux, tant mieux. Sur ça. C'est vrai, Rabbi Zanassi lui-même l'a dit. Mais on parle des gens qui ne peuvent pas faire les deux. C'est vrai que je m'arrête. Si tu as le choix, il faut courir pour la Mishnah. C'est-à-dire, il faut courir. Alakha. Ça veut dire quoi?
Mishnah, c'est Alakha.
Oui, Mishnah, c'est Alakha. Quand je dis Alakha.
En vérité, non.
Quand je dis Alakha, ça veut dire le côté pratique des choses.
Oui, parce que la Mishnah, c'est la Gmar.
Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi.
Alakha, c'est la partie de la Gmar. C'est pas partie de la Mishnah.
Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Israël. Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter. Il lui a posé la question. Il lui a dit, j'ai que 20 minutes par jour pour étudier. Je crois que je l'ai déjà raconté d'accord. Il a dit, j'ai que 20 minutes par jour pour étudier. Est-ce que je dois étudier plutôt de la Halakha, ou plutôt de la Gemara, ou plutôt du Moussar, ou de la, enfin, je sais pas, ou de la pensée juive, quoi. D'accord ? Ou de la Chassidoute, bon,
c'est ça la réponse.
Qu'est-ce que je dois étudier ? Sur quoi qu'est-ce que je dois étudier ? Et Rabbi Israël, c'est Rabbi Israël, Salin, tu lui as répondu, il a dit, étudie le Moussar. Attends, c'est pas plus important qu'à Gmara.
Il a dit plus de 20 minutes.
Voilà.
Ouais, exactement.
C'est plus de 20 minutes qu'il faut.
Ouais. Ouais.
Tu as travaillé sur le fait que c'est pas mal.
Voilà pour la racine du dossier.
Non, mais...
Mais en tout cas, ça veut dire que le plus important, c'est l'action. C'est ce qu'on retient. Le plus important, c'est comment je me comporte. Après, les raisons d'Alakha, bon, tu les connais tant mieux, tu les connais pas, tant pis. Mais une personne qui avait la possibilité de connaître l'Alakha et qui ne l'a pas apprise, Shigat Talmud Olazadon, ça veut dire le fait de mal avoir étudié, de pas avoir pris le temps d'étudier, de comprendre, Olazadon, c'est considéré comme une erreur.
Voilà. Pour faire un peu plus
une erreur de Mézid.
Parce qu'à part la Mishnah Boura, qu'est-ce qu'on fait une fois par semaine?
D'accord, on intègre la halakha partout, t'inquiète pas. Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va finir, si Dieu veut, le chapitre donc, de Elou Metziot. Et comme je vous ai dit, je vous amènerai la copie de Shulchan Aruch. Et on étudiera quelques halakha dans le Shulchan Aruch. Vous allez voir comment c'est très intéressant à étudier le Shulchan Aruch après qu'on a étudié la Gemara. C'est autre chose.
C'est autre chose parce que... En disant, je n'ai plus besoin de vous pour aujourd'hui.
C'est très intéressant parce que on voit des fois le Shulchan Aruch qui parle des cas qui nous ont l'air bizarres. On comprend pas pourquoi il parle de ces cas. C'est uniquement quand on a pris la Gemara et qu'on a vu que ces cas ont été traités, c'est là qu'on comprend ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch. En vérité, le Shulchan Aruch, c'est une conclusion de la Gemara.
C'est ça.
Je vous montrerai ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem.
Azakoubaro.
Voilà. Ça va être fini pour aujourd'hui.